Espace 2. Entre les lignes, Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, je reçois aujourd'hui Olivia Guérig, auteur d'un premier roman paru aux éditions Encre Fraîche, L'Ogre du Salève, tel est son titre. Soyez les bienvenus. Bonjour. S'il est un genre littéraire qui traverse les époques et stimule toujours apparemment autant l'imaginaire des auteurs, c'est sans doute le roman policier. Au cours des décennies écoulées, se sont imposés en Suisse romande des personnages tels que l'inspecteur Perrin, dans la série imaginée par Michel Bory, le journaliste Michel Bory, Marie Machiavelli, l'enquêtrice tenace des romans policiers d'Anne Cuneo, et puis plus récemment, Daniel Abimi a fait connaître son talent en publiant deux romans très noirs situés dans la région lausannoise. Le valaisan Bastien Fournier, dont on connaît l'exigence et la recherche formelle, s'est essayé, lui, l'année dernière, au Polar, en publiant l'assassinat de Rudolf Schumacher, intrigue très ancrée dans la réalité valaisanne, alors que du côté de Genève, Corinne Jacquet emmène toujours ses lecteurs dans les rues de la ville en imaginant de sombres intrigues à couleur locale. Tout cela pour dire que la scène du crime reste très fréquentée par les auteurs romans, et c'est aux portes de Genève que mon invité a situé son premier roman noir, dans la région dominée par le Salève. Vous savez, cette montagne aux allures parfois menaçantes qui impose ses falaises abruptes sur le bassin genevois. C'est là, dans une sombre caverne naturelle, qu'un tueur en série séquestre ses jeunes victimes avant de les tuer pour les ingurgiter. Un repas quasi sacrificiel, censé dans l'esprit dérangé du cannibale lui offrir la jeunesse et la vigueur éternelle. Alors vous l'aurez compris, ce roman plonge le lecteur dans les zones les plus sombres de l'âme humaine. L'auteur y évoque la question morale du mal que l'on peut faire subir à une victime pour assouvir ses pulsions ou ses croyances, le rapport entre le bourreau et sa victime, et l'horreur qu'un humain est capable d'infliger à un autre humain. Des thèmes revenus brutalement sur le devant de la scène internationale depuis quelques mois. Nous parlerons donc du livre et de ce qu'il raconte de notre société contemporaine dans nos interlignes du jour avec son auteur. Bonjour Olivia Guérig.
Bonjour Jean-Marie.
Depuis sa parution, il y a quelques semaines, votre roman fait son chemin parmi les très nombreux livres présents chez les libraires. Rencontres en librairie, lectures publiques, articles de presse plutôt élogieux, bouche à oreille. L'Ogre du Salève semble donc avoir trouvé son public et intrigué les lecteurs. À quoi, vous, en tant qu'auteur, vous attribuez l'intérêt qu'on lui porte? Quel retour vous avez de ses lecteurs?
C'est surtout au niveau de l'intrigue, parce qu'on me dit qu'elle est très bien ficelée et qu'on a envie de connaître la suite. Donc, quand on commence, on est tout de suite plongé dans une atmosphère avec beaucoup de détails. Donc, on m'a dit que je décrivais bien les endroits dont je parlais. Également aussi, le fait que l'intrigue est très très intéressante et qu'on a vraiment envie de savoir, mais qui est ce togre? Pourquoi est-ce qu'il fait ça?
Donc, et ça, c'est ce qui vous intrigue aussi, vous, en tant qu'auteur. Pourquoi fait-il cela? La relation de cause à effet, ces agissements, de quoi viennent-ils? Alors, on pourrait résumer votre parcours personnel, Olivia Guérig, en quelques étapes. Donc, des études littéraires, un master en relations internationales, activité professionnelle dans la communication et ensuite des études en criminologie, mais par correspondance. Est-ce finalement la somme de toutes ces étapes qui vous a conduit à l'écriture?
Tout à fait. Mais les études en criminologie, c'était pour écrire. Oui. C'était pour avoir envie de... Parce que j'avais envie d'écrire un roman policier, donc pour appuyer la rédaction de mon roman policier sur des faits réels. Donc les études en criminologie, c'était plutôt pour appuyer mon écriture.
Et non pas pour devenir criminologue vous-même un jour.
Non, du tout. C'était vraiment pour avoir les bases vraiment de compréhension de comment se passe une enquête dans la réalité, quelles disciplines sont utilisées et pour ne pas être à côté de la plaque.
Ouais, pour connaître votre sujet.
Tout à fait.
Je pense pas qu'il y a beaucoup d'auteurs de romans policiers ou de romans noirs qui vont aux sources telles que vous l'avez fait. Pour vous, c'était une nécessité absolue.
Tout à fait. Surtout au niveau de la psychologie, parce que c'est le thème qui m'a le plus intéressée, en fait, dans ces études. Donc tout ce qui est psychocriminologie pour comprendre le mal. Pourquoi est-ce qu'un individu va basculer ou pas? Quelles sont les causes? Ouais, l'origine du mal, parce que c'est aussi un peu ce qui m'a inspiré à l'époque quand j'ai commencé à lire des romans policiers. les origines du mal. Comment est-ce que les auteurs de polar, etc., expliquent ça dans leur livre?
Alors, depuis quand, vous, Olivia Guérig, lisez-vous des romans policiers ou des romans noirs?
Alors, on va dire que je lis des romans policiers. Bon, ça, c'est entre guillemets, parce que j'ai commencé à lire Enid Blyton quand j'étais très jeune.
Le Club des Cinq, le Clan des Sept.
Voilà,
nous avions
exactement.
Les mêmes lectures, figurez-vous. Bon, c'est pas très noir. Hein.
Puis après, il y a eu Alice. Puis ensuite, je suis passée à Stephen King quand j'avais 10, 11 ans. Donc, je louais tous les... À la bibliothèque de mon village, j'allais chercher tous les Stephen King. Puis je suis passée à Mary Higgins Clark, mais ça, c'était quand j'étais très jeune. Ouais. Et puis Agatha Christie, bien sûr, aussi, de plusieurs auteurs et plusieurs styles complètement différents.
Ça, c'est pour le côté lecture, mais depuis quand écrivez-vous ou avez-vous envie d'écrire?
Depuis l'âge de 8 ans. Donc,
8 ans,
j'ai commencé.
C'est très daté. Hein.
Ouais,
que s'est-il passé à l'âge de 8 ans?
Je sais pas, c'est quand j'ai commencé un peu à vraiment construire ce monde imaginaire autour de moi, parce que je suis enfant unique. Ouais. Donc j'avais toujours besoin de m'évader, donc je m'évadais soit par la lecture, j'ai beaucoup fait d'équitation aussi, ce qui me permettait d'être proche de la nature, j'ai beaucoup écouté de musique, j'ai fait de la musique, du chant, et l'écriture est venue compléter ça, parce que j'étais une enfant assez timide, et j'avais besoin justement de retranscrire en fait mes sentiments ou des histoires que j'avais dans ma tête, donc je les écrivais. Donc bon, ça allait des histoires à un magazine que j'avais créé avec des amis, et on écrivait aussi des pièces de théâtre qu'on jouait ensuite devant nos parents. Voilà.
Alors Olivia Guérig, le roman noir ou le roman policier est un genre littéraire, on appelle ça de la littérature de genre, qui est hautement codifiée, même si maintenant les auteurs prennent énormément de liberté. Lorsqu'on commence à écrire, est-ce qu'on n'est pas justement tenté de s'émanciper de toute contrainte formelle? Ou peut-être de jouer avec ces codes?
Oui, ouais, parce que moi je n'ai pas vraiment pensé à des codes spéciaux en écrivant.
Bah, il y en a dans votre roman.
Voilà. Hein,
ils sont d'ailleurs assez précis, un policier, son adjoint, etc.
Voilà.
Donc, je ne sais pas si vous en jouez, mais en tout cas vous les avez insérés de manière tout à fait patente.
Il le fallait quand même.
Ouais. Mais il était clair que pour vous c'était le roman policier qui vous inspirait dans le monde littéraire.
Tout à fait, ouais. Au début.
La comédie aussi... romantique, c'était pas pour vous.
Ah non, c'est plutôt le style noir, les histoires sombres. De manière générale, j'aime aussi tout ce qui touche à la littérature un peu plus sombre, comme les auteurs américains contemporains,
ouais.
Que j'admire beaucoup et que j'ai beaucoup lu.
Qui vous inspire?
Oui, tout à fait.
Vous avez fréquenté, j'y faisais mention tout à l'heure, deux hautes écoles, les hautes études internationales et du développement à Genève, et puis ces études par correspondance aux hautes études en criminologie de Paris. Faites-vous un lien entre ces deux cursus?
Oh, ça, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y a quand même une volonté d'apprendre toujours. Parce que je suis quelqu'un de très curieux et j'ai toujours eu envie d'apprendre et de connaître beaucoup de choses. Mais autrement, je ne vois pas vraiment le rapport.
Alors, la criminologie vous a amené à l'écriture de romans policiers. Et en revanche, les études internationales et du développement, à quoi vous ont-elles mené?
À la communication. Au départ, je voulais être journaliste dans une rubrique internationale parce que j'étais très intéressée par toutes les questions liées à l'histoire, à la compréhension du monde dans lequel on vivait, à la politique. Donc c'est pour ça que j'ai entamé des études de hautes études internationales. Puis j'ai travaillé dans la communication pour essayer de dire vrai. Et je pense que, par contre, là, le lien, il est quelque part au niveau de l'écriture.
Communiquer, selon vous, c'est dire vrai?
Ben justement, j'ai remarqué, suivant les emplois que j'ai eus, que ce n'était pas toujours le cas et c'est un peu
bien.
Compliqué.
Aujourd'hui, la communication ne passe pas forcément par la vérité.
Hein.
L'illusion est aussi pleinement à l'œuvre lorsqu'on parle de communication.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que le journalisme m'intéressait plus, parce que j'avais envie de montrer justement une certaine objectivité des faits et la réalité du monde dans lequel on vit. Donc c'est aussi un travail un peu journalistique, mon livre,
oui,
je crois.
Il est très factuel et il y a beaucoup d'informations. Peut-être trop par moment, mais ça, on en discutera tout à l'heure. On va essayer de dire vrai aujourd'hui dans nos interlignes, Olivia Guérig, en tout cas votre vérité. L'Ogre du Salève est votre premier roman publié. Et sans l'assistance de certaines personnes bien intentionnées, peut-être serait-il resté à l'état de manuscrit. C'est ce que m'a appris votre éditeur de chez Encre Fraîche. Il s'appelle Alexandre Roga, lorsque je lui ai demandé de me parler de votre rencontre.
Alors, c'était au Salon du Livre, il y a 2 ans maintenant. Donc, nous avions un stand, en fait, en face au Salon du Livre, elle pour Handicap International, moi pour les éditions Encre Fraîche. Et nous nous sommes souris au fil des jours. Et puis, un jour, elle est arrivée avec un manuscrit. Et elle m'a dit, voilà, j'ai écrit un texte, je n'ai pas envie de vous le donner, mais mon père m'a obligé, et je vous donne ce texte, donc L'Ogre du Salève.
Ouais, c'est une jolie histoire, une jolie rencontre. Pour vous, l'envie de publier un livre dans votre maison d'édition Encre Fraîche, est-ce que ça naît toujours d'un sourire, d'une telle rencontre comme ça?
C'est souvent des rencontres, effectivement. Alors nous ne faisons pas d'appel de manuscrits, c'est des gens qui nous envoient les manuscrits, mais c'est vrai qu'il y a souvent une rencontre à la base, à l'origine. Après, c'est vrai que c'est souvent des histoires qui se continuent, qui se poursuivent, une histoire d'amitié aussi avec les auteurs.
Lorsque vous avez découvert le manuscrit de L'Ogre du Salève, quelles qualités avez-vous trouvées à ce texte qui vous ont donné envie de le publier?
Alors c'est vrai que déjà le titre m'avait vraiment accroché. Et après, dès que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter, donc j'ai été captivée par cette histoire, assez fascinée par cette recherche autour de la question du mal et de cette intrigue policière vraiment haletante, et une construction aussi qui m'a assez épatée pour un premier roman, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes, beaucoup de fausses pistes aussi, et la structure tient du début à la fin. Et donc pour un premier roman, ça me semblait assez exemplaire.
Mmh. Et le fait que l'intrigue du roman soit située dans la région genevoise, dans le Grand Genève, est-ce que c'est aussi un argument pour la publication, le fait qu'il y ait un phénomène de reconnaissance qui puisse s'opérer avec les lecteurs?
Oui, alors forcément, c'est vrai que, en tout cas à Genève, c'est vrai que le Salève est très présent, on ne peut pas échapper à cette montagne. Et donc pour nous, l'ancrage local était vraiment intéressant. C'est vrai qu'on connaît tous ces lieux, on y passe de temps à autre. Et donc pour nous c'était un plus, c'est vrai que ça nous a aussi accroché à ce niveau-là.
En quoi ce roman s'inscrit-il dans votre ligne éditoriale chez Encre Fraîche?
Alors on ne peut pas vraiment parler de ligne éditoriale chez nous, c'est plutôt vraiment le coup de cœur. Donc on a une commission littéraire qui lit les textes et puis après c'est à l'unanimité ou à la majorité en tout cas. Et quand on a un coup de cœur pour un texte, donc peu importe le genre du texte, c'est ce coup de cœur qui fait qu'on a vraiment envie de suivre ce texte, de le défendre et de le présenter au lecteur.
Au préalable, vous aviez déjà publié de la littérature de genre, littérature policière, roman noir?
Non, alors pas du tout. C'était vraiment le premier polar, donc en 11 ans d'existence. Et on avait reçu d'autres polars, mais jusque-là, aucun ne nous avait vraiment captivé comme celui-ci.
Olivia Guérig le dit volontiers elle-même, elle a beaucoup lu les polars, ses pairs. Est-ce que cela vous semble perceptible aussi dans son écriture? Est-ce que c'est une écriture assez référencée?
Je pense qu'il y a certains aspects qui ressortent. Le commissaire Rouillet, par exemple, le personnage principal, peut faire penser peut-être un peu au commissaire Colombo ou d'autres aspects des policiers, des polars plus nordiques ou autres qu'Olivia a lus. Donc je pense qu'il y a certains codes, effectivement, qui se retrouvent et certains motifs.
Et qu'avez-vous pensé des discours très théoriques qui sont insérés dans la narration, notamment lorsqu'il s'agit de définir le profil du tueur en série qui sévit dans la région genevoise?
Oui, alors au départ, on s'est beaucoup interrogé par rapport à ça, effectivement. Le discours, par exemple, qui se trouve au milieu du livre d'une spécialiste donc du cannibalisme.
Oui, d'une profileuse, hein, comme on appelle
exactement,
ça.
Exactement, tout à fait. Était beaucoup plus long, donc on a quasiment écourté de la moitié ce texte. Et c'est vrai que là, je pense que ça se justifie tout à fait pour comprendre ce personnage de l'ogre. Et ça éclaire justement toute cette démarche et toute cette question autour du mal qui laisse le lecteur perplexe, je pense, pendant la lecture.
Est-ce que vous êtes intervenu dans la rédaction? Enfin, la rédaction était déjà réalisée, mais à part éventuellement l'abréviation de ce long discours théorique de la doctoresse Reynaud, est-ce que vous avez tenu à intervenir, à modifier légèrement le texte qui vous avait été soumis?
Alors oui, on a toujours un travail, une collaboration avec l'auteur, donc c'est vrai qu'on discute beaucoup, enfin que ce soit de la ponctuation, que ce soit du rythme des phrases. Après aussi par rapport au fait que c'était un roman policier, c'est vrai que tous les détails doivent tenir. C'est vrai que pour un roman policier, il faut que tout soit vraiment parfait, qu'il n'y ait pas de failles. Et donc là, on a discuté de certains aspects, effectivement, pour que ça soit encore plus efficace et plus cohérent.
En consultant le catalogue de vos éditions, on se rend compte que vous suivez les auteurs au fil de leur parution. Et vous êtes donc prêt, si je comprends bien, à établir une relation de fidélité et de compagnonnage avec Olivia Guérig?
Exactement, c'est vrai que c'est une belle rencontre. Olivia est vraiment quelqu'un d'attachant, de sensible, qui est à l'écoute, qui est pleine d'enthousiasme aussi. Et on aime avoir vraiment une relation sur la durée avec les auteurs. On aime faire fonction de tremplin, mais c'est vrai que si après l'auteur veut continuer avec nous, on est tout à fait partant. On a des auteurs comme Francine Collet, par exemple, qui a publié 6 ouvrages chez nous. qu'on aime cette relation d'amitié avec les auteurs. Pleased to meet you. Hope you guess my name.
Pleased to meet you, chante Mick Jagger. Heureux de vous connaître, vous a dit Alexandre Roga, votre éditeur, Olivia Guérig. Cette relation d'amitié, de fidélité dont parle votre éditeur, vous est-elle précieuse?
Oui,
vous êtes-elle mise en confiance?
Oui, tout à fait, parce que c'était vraiment... j'y croyais pas au début à mon histoire, j'y croyais pas à mon manuscrit. Donc c'est mon père qui m'a donc poussé à donner mon manuscrit à des éditeurs. Je me suis dit, bon,
tout cela est parti d'un sourire, hein,
tout
sur l'instant du Salon du Livre.
Tout à fait. Parce que moi, je travaillais à l'époque pour l'ONG Handicap International dans la communication et nous avions un stand. Et je voyais Alexandre Gade tous les jours dans le stand juste en face de moi. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer d'aller le voir parce qu'ils ont l'air gentils dans cette maison d'édition, peut-être. Peut-être, on ne sait jamais.
Mais c'est quand même extraordinaire. Vous avez fait 2 ans d'études en criminologie par correspondance pour écrire ce fameux roman. Et au moment de le publier, vous n'y croyez pas. Vous manquez de confiance à ce point-là?
C'est possible. C'est surtout...
Vous n'avez pas essayé de le soumettre par mailing à 10, 15 éditeurs?
Du tout.
Mais enfin...
Du tout.
Je comprends pas ça.
Parce que c'était vraiment une passion pour moi. Donc c'était plus
oui, une passion
quelque
secrète
chose à moi.
Qui n'était pas destinée à être lue, si
au
ce n'est
départ,
par vos parents.
Au départ, oui.
Vous avez bien fait quand même d'insister. Ce sourire a été quand même assez décisif. Oui. Alors, Alexandre Roga pourrait éventuellement publier d'autres romans, puisque vous avez noué un compagnonnage avec lui, une relation de fidélité. Et notamment, la nouvelle, ou la grande nouvelle, ou le petit roman, qui est intitulé « Les pendus du Tchou ». Alors ça, c'est un texte, il faut aussi l'apprendre à nos auditeurs, qui a précédé « L'ogre du Salève », considéré comme votre premier roman. Mais c'est un premier roman publié, « L'ogre du Salève », puisqu'il existe avant un autre texte.
Tout à fait. Donc « Les pendus du Tchou », c'est aussi un roman policier, un roman noir sur un criminel. Qui introduit les personnages qui sont aussi dans l'ogre du Salève. Donc
voilà.
On découvre le commissaire Rouillé, on découvre Aurore, on découvre un autre inspecteur John qui malheureusement ne sera plus là dans l'ogre du Salève. Donc ça situe aussi l'intrigue, le commissariat d'Annecy, c'est aussi assez noir et assez sombre. Mais c'est vrai que ce texte n'était pas destiné à être publié à la base puisqu'il s'agissait d'un travail de mémoire dans le cadre de mes études. Et voilà, mais ça m'a beaucoup plu de l'écrire.
Donc un travail de mémoire sous forme de texte littéraire pour conclure vos études en criminologie.
Voilà.
C'est une chose courante, ça, qui se fait fréquemment?
Non, je crois pas.
Et c'est peut-être pour ça que ce texte a aussi des allures, je parle des pendus du Tchou, et on retrouve un peu ces allures-là aussi dans l'ogre du Salève, quelque chose d'assez théorique, comme si tout ce que vous avez appris pendant ces 2 ans d'études en criminologie, vous aviez souhaité l'appliquer dans une enquête de votre imagination.
Tout à fait, c'est exactement ça. Oui. Donc des faits qui pourraient être réels, qui sont appliqués avec de la théorie criminologique, mais en essayant d'être juste. Donc,
oui.
Voilà.
Mais Alexandre Gade en parlait tout à l'heure, toute la difficulté, c'est de faire une bonne balance entre l'aspect littéraire et l'aspect théorique. Il vous a demandé notamment de réduire un peu ces longues pages théoriques dans laquelle notamment cette fameuse profileuse, la doctoresse Reynaud, à partir de quelques indices minimes, arrive à décrire le profil du tueur en série avec une précision redoutable. Ça, c'est peut-être un petit peu fastidieux pour un lecteur.
Oui, ça c'est sûr. Donc pour moi, dans l'ogre du Salève, c'était vraiment ce que j'avais envie de raccourcir, en fait. Puisque je me disais, l'ogre du Salève est beaucoup plus romancé. Donc les parties étaient déjà beaucoup moins longues que dans les pendus du Tchou. Étaient moins précises, surtout aussi pour tout ce qui est police scientifique et médecine légale, où je crois que j'ai beaucoup plus étoffé ces éléments là dans le premier.
Ouais.
L'ogre du Salève, c'était vraiment une histoire. C'était vraiment une fiction qui est basée sur des faits historiques aussi assez sombres, qui se sont effectivement déroulés, pas tels quels, comme on les voit.
C'est
mais
une transposition
voilà,
romanesque.
Exactement.
Il est temps d'y venir à cette histoire que vous racontez dans l'ogre du Salève. Olivia Guérig, on va entrer dans l'antre de cet ogre. La comédienne Rita Gay, qui est à vos côtés, va nous lire les 2 premières pages de votre roman.
La nuit commençait à envelopper le village paisible de Saint-Blaise, au pied du roc noir et brun que forme le Salève aux alentours de la frontière franco-suisse. Des lumières scintillaient aux fenêtres et des volutes de fumée grise s'élevaient au-dessus des toits. C'était une belle journée de fin d'automne, baignée d'une lumière spéciale. Les anges avaient commencé leur travail de pâtisserie et, au crépuscule, le ciel s'était une nouvelle fois teinté de magnifiques couleurs pastel. La nuit, on ne voyait plus le jet d'eau, emblème de Genève, situé à une quinzaine de kilomètres en contrebas, en raison d'une épaisse couverture de nuages couvrant la vallée. On ressentait cette ambiance chaleureuse et spéciale dans le moindre des recoins des maisons du petit hameau qui comptait moins de 200 âmes. Le château des Agnières, figure d'architecture gothique au milieu des pins, veillait sur ses hôtes endormis. Le fantôme de la demeure entamait sa ronde nocturne et trouvait son chemin dans les couloirs tapissés et les broiseries. Le fumet du repas gastronomique servi la veille emplissait encore les escaliers. Le calme semblait régner. Les arbres baignaient dans la lumière rassurante de la lune et se laissaient aller sous la caresse douce de la brise, qui s'était levée lorsque le soleil avait fait ses adieux en se cachant derrière le Jura de l'autre côté du lac. Tout était propice à une soirée en famille, passée auprès d'êtres chers, dans la sérénité, autour d'une bonne table, au son des couteaux et des fourchettes qui s'entrechoquaient. Un repas, une véritable réjouissance pour les papilles. Le goût, la vie, la bonne chère, il n'y avait que cela de vrai. Cette pensée avait aussi traversé un autre esprit trouble quant à lui, qui se trouvait à quelques centaines de mètres de là. En effet, dans la grotte du diable, un feu était allumé. Les flammes vacillaient et se reflétaient sur les murs de l'antre. D'étranges ombres se dessinaient sur les roches, comme des centaines de visages pâles, de scalpes sinistres. La fumée qui s'échappait des entrailles de la terre avait une toute autre odeur que celle de la cheminée du château. Des zestes de mort, de pourriture, entouraient les volutes blanches qui sortaient de cette gueule grande ouverte, prête à engloutir tout promeneur imprudent osant s'approcher des lieux et braver les secrets de la forêt. Leur gardien était là, pas très loin. Il se joignait aux convives du festin avec délectation et envie. L'ogre courait dans le plus simple appareil, au cœur des bois. Il avait mangé comme les autres. Après un tel repas, c'était nu qu'il se sentait le mieux. Sans entrave, il courait et hurlait de toutes ses forces. En fait, il n'était pas vraiment seul. Ses compagnes étaient là, des dizaines, amicales, menaçantes, violentes, douces, maternelles, belles, désirables, sensuelles, insaisissables. Non, pas insaisissables. Quelque chose dans sa tête lui disait que ce n'était pas bien. Mais il n'en avait rien à faire de cette voix. Il aimait mieux cette autre voix qui le galvanisait. Il se sentait revivre, repu. Il n'était plus seul. Il ne serait plus jamais seul.
Quelques mesures de Pornography, un morceau du groupe The Cure, dont les paroles sont placées en exergue à l'un des chapitres de L'Ogre du Salève, le livre dont nous parlons entre les lignes aujourd'hui sur Espace 2. Vous êtes mon invité, Olivia Guéric, pour évoquer ce premier roman récemment paru aux éditions Encre Fraîche. Un roman noir d'encre, rouge sang, sur fond de cannibalisme contemporain. Alors j'ai parlé des Cure, mais votre livre comporte plusieurs références musicales, toutes tirées du répertoire plutôt rock
pure et dure, une musique qui peut-être soutient votre imaginaire.
Tout à fait, donc j'écris toujours en musique. J'écoute très souvent donc Cure. C'est un des groupes que j'ai le plus écouté de ma vie, c'est mon groupe phare. Et je trouve que la chanson « Pornographie » représente bien le livre et le chapitre dans lequel elle est citée. Et donc j'écoute énormément de musique en écrivant.
Et l'écriture en musique pulse votre phrase, lui donne du rythme, le rythme que vous souhaitez ?
C'est possible.
Il y a une symbiose entre les deux ?
Oui. Bon, ça dépend toujours dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Bon, c'est vrai que mon répertoire est plutôt rock et plutôt New Wave. C'est plutôt sombre aussi.
Donc New Wave et non pas New Age, on est d'accord.
Oui, tout à fait
la même chose. On l'a entendu dans ces pages initiales de Le Gord du Salève, Olivia Guérig. L'affaire se passe dans la région frontalière qui borde Genève, donc au pied du Salève, cette montagne qui, par bien des égards, est un peu menaçante, en tout cas du côté genevois. Quels sont vos liens avec cette région que vous semblez bien connaître ?
J'ai mon ex-mari qui a vécu dans cette région pendant un grand moment. Ouais. Et en fait, il y a toute sa famille qui est installée dans cette région. Et j'ai découvert cette région avec lui, donc des petits villages qui m'ont inspiré beaucoup de choses. Des gens aussi, avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Donc c'était vraiment une recherche sur le terrain, parce qu'il y avait des familles qui sont installées là-bas depuis des années, donc qui m'ont donné aussi de la matière pour mon livre. Et c'était vraiment aussi vraiment des ambiances, des lieux même, comme Saint-Blaise par exemple. Moi je me suis toujours sentie un peu oppressée dans ce village. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment... Puis, le château des Avenirs, parce que j'y suis allée. Et c'est vrai que c'est un lieu qui m'a beaucoup impressionnée.
On y mange bien aujourd'hui au château des Avenirs.
Tout à fait. Mais il y a un fantôme
qui
promène.
Voilà qui devrait ravir une auteure de polar telle que vous êtes, Olivia Guérig. Donc dans la description qu'on a entendue par la bouche de la voix de Rita Gay, il y a deux ambiances qui sont d'emblée confrontées. D'abord l'aspect chaleureux et serein d'un petit village paisible au clair de lune et puis ensuite le rituel macabre d'un dangereux prédateur que vous appelez l'ogre. On l'apprendra plus tard, ce personnage a la fâcheuse manie de séquestrer et de dépecer de très jeunes femmes pour composer son repas. Donc, on l'a dit aussi, votre écriture est factuelle, mais vous vous donnez souvent l'occasion de décrire les lieux, comme un enquêteur peut-être a besoin justement de fréquenter la scène du crime pour trouver la solution de l'énigme.
Ah non, c'est vrai. Donc moi, je me rends souvent sur les lieux que je décris pour prendre l'ambiance. Et je pense que c'est très important de savoir où on situe une intrigue, ce qui nous entoure, et de prendre vraiment... Je suis quelqu'un d'assez sensible, donc je sens les endroits dans lesquels j'écris. Ouais. Donc je pense que l'atmosphère et la description des lieux permet justement de comprendre pourquoi ça puisse passer à cet endroit-là, par exemple. Je sais pas.
Et quelque part dans votre roman, vous citez les propos d'une enquêtrice sud-africaine nommée Mickey Pistorius. Et là, je cite Mickey Pistorius. Il y a toujours un vent sur la scène de crime. Quand je vais sur place, je cherche le vent et je le laisse envahir mon esprit. Et c'est peut-être ce vent que vous avez cherché, que vous tentez de restituer par la phrase pour votre lecteur.
C'est tout à fait ça. Dans un lieu où quelque chose s'est passé, quelque chose de terrible, on ressent quelque chose, je pense. Voilà.
Donc d'écrire, comme vous le faites dans ces premières pages de L'Ogre du Salève, la caverne de votre tueur en série, c'est déjà faire respirer à votre lecteur le vent du crime.
Tout à fait.
Et ça passe par le choix des mots, par la syntaxe, par la rythmique.
Les adjectifs aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'adjectifs dans le passage qu'a lu Rita.
Oui, beaucoup. Il y a même une énumération.
Et je pense que par rapport à l'ambiance, parfois, il faut être détaillé dans les descriptions.
Ouais. Nous, on ne va pas trop donner de détails de l'intrigue que vous racontez dans L'Ogre du Salève. Ce serait dommage de gâcher le plaisir de vos futurs lecteurs, Olivia Guérig. Mais il faut quand même donner quelques indications. Parce que dans les premiers chapitres de L'Ogre du Salève, trois affaires vont éclater simultanément, et ça c'est le fondement de votre roman. D'une part, la découverte d'un charnier contenant des ossements humains. D'autre part, la disparition de deux jeunes femmes à la sortie de leur lycée. Et enfin, l'assassinat dans son appartement d'un certain Jean Paulet,
un octogénaire, ancien résistant dans la région et professeur d'histoire, bon connaisseur de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces trois affaires vont très vite n'en faire qu'une. Et c'est le commissaire Rouillet, commissaire à la préfecture d'Annecy, qui sera chargé de l'enquête. Donc voici de quelle manière vous faites entrer en scène votre commissaire qui, a priori, n'a rien d'un super-héros. C'est Rita Gay qui nous en fait la description.
Il faisait trop chaud dans son petit appartement de la vieille ville d'Annecy. Rouillet dormait à poing fermé. Il avait fêté son départ à la retraite avec ses collègues la veille et avait un peu forcé sur le whisky. Il suait à grosses gouttes dans ses draps. Le commissaire avait eu, comme à son habitude, beaucoup de mal à trouver le sommeil. Il s'était resservi un verre de Talisker et avait fumé une dernière cigarette avant d'aller se coucher. Certaines images le poursuivaient et le torturaient sans cesse. Il voyait le regard sans expression et sans regret du jeune homme qu'il avait conduit au poste pour l'assassinat de jeunes prostituées 2 ans plus tôt. Il ne s'était jamais remis de la violence des crimes commis et avait pris conscience que parfois la part d'ombre de l'être humain pouvait être plus importante qu'il ne l'avait cru. En lui résidait jusque-là l'espoir que le bien prenne toujours le dessus sur le mal, malgré tout. Malheureusement, cette croyance l'avait quitté à tout jamais. Le commissaire allait bientôt rendre sa plaque, à contre-cœur. Son surpoids le faisait de plus en plus souffrir aussi. Il avait bien mérité ce repos, même si c'était vraiment difficile pour lui de décrocher.
Cette affaire de l'ogre du Salève sera donc la dernière que le commissaire Rouillet aura élucidée, puisqu'en principe, il part quelques jours plus tard à la retraite, Olivia Guérig.
Tout à fait.
Envoyer votre héros peu héroïque à la retraite, est-ce que c'est une assurance pour vous de ne pas le retrouver dans le livre suivant, de ne pas commencer une série ?
Non.
Pour quelle raison cette situation professionnelle très particulière ?
Parce que j'avais besoin d'un inspecteur qui avait de l'expérience, qui était âgé, qui avait une vie derrière lui. C'était surtout dans le caractère de ce personnage que j'avais envie de l'ancrer. Mais je dis pas qu'il va pas revenir, en fait. Voilà.
Mais parce que lorsqu'on est fonctionnaire, on part à la retraite à un âge déterminé, en Suisse ou en France, et on ne rigole pas avec ça. Donc il va falloir user de stratagèmes en tant qu'auteur pour le faire revenir.
Tout à fait.
Mais il pourrait revenir dans le roman suivant, c'est ça que vous nous annoncez aujourd'hui. Bon, donc cette histoire de l'ogre du Salève n'était pas tout à fait sa dernière affaire. Un flic bourru, en surpoids, dissimulant une belle humanité sous des dehors quelque peu autoritaires, c'est presque un stéréotype de la littérature policière. Moi, il m'a fait penser un peu à Maigret, hein. Votre personnage.
C'est vrai, il y a Maigret, il y a justement le personnage de Ian Rankin qui m'a beaucoup inspiré aussi. C'est vrai qu'il est bourru, des fois il peut être de très mauvaise humeur c'est vrai que ça pourrait être un peu un cliché, mais ça l'est pas parce qu'il a ses propres côtés. Il a quand même un côté d'une douceur assez importante quand on le voit avec Justine, justement, Justine Reynaud.
Oui, pour qui il en pince un peu, Justine Reynaud, donc cette profileuse belge qu'il invite de temps en temps sur la scène du crime pour élucider, pour le guider. Oui, mais il y a une petite histoire, une petite bluette qui pourrait... Mais ça, c'est une autre affaire. Mais comme quoi, il n'y a pas que de sombres histoires dans votre roman, il y a aussi un peu de bleu romantique. En évoquant son enquête menée dans les Pendus du Tchou, donc le livre qui a précédé, enfin le texte, puisqu'il n'a pas été publié, qui a précédé L'Ogre du Salève, il est dit de Rouillet qu'il avait pris conscience que parfois la part d'ombre de l'être humain pouvait être plus importante qu'il ne l'avait cru, et lui restait jusque-là l'espoir que le bien prenne toujours le dessus sur le mal. Tout cela est très moral et cette phrase me semble assez essentielle pour évoquer votre démarche littéraire à vous, Olivia Guérig, comme si cet espoir du commissaire Rouillet, en fait, c'était le vôtre.
C'est bien possible, oui. C'est tout à fait ça. C'était un peu aussi la démarche que j'avais parce que l'idée du doute, en fait, de se reposer toujours la question, est-ce qu'on est mauvais dans le fond ou est-ce que le mal s'apprend ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir toujours l'espoir que... que le bien le remporte sur le mal, finalement. Comme le dit dans le, comme je le dis dans le texte, comme le pense le commissaire, oui. Mais il va être déçu, justement, parce que le mal prend des proportions tellement énormes que comment encore croire en l'être humain? En fait, c'est de croire en l'humanité. Lui, il aimerait croire encore. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait avancer aussi.
Et c'est pour ça que vous citez à plusieurs reprises en tête de chapitre, en exergue, des aphorismes de Nietzsche tirés de « Par-delà le bien et le mal ».
Tout à fait, oui.
C'est un texte que vous avez lu ?
Oui, bon, il y a un moment, mais oui.
Et qui résonne donc dans l'histoire atroce que vous racontez.
Tout à fait.
Alors je vous propose, Olivia Guéric, de retrouver le commissaire Rouillet sur la scène du crime, dans l'appartement de ce Jean Paulet, donc cet ancien résistant tué d'une balle dans la tête après une tentative de cambriolage. Indice tout à fait intéressant, le cadavre de la victime tenait encore dans sa main un mystérieux bout de papier. La suite, c'est Rita Gay qui nous la donne en lecture.
Rouillet s'interrogeait encore sur les raisons de ce meurtre et du cambriolage. L'éminent professeur d'histoire, Jean Paulet, assassiné lors d'une tentative de cambriolage ? Cela lui paraissait évidemment très louche. C'était surtout ce bout de papier à l'air ancien qui le faisait douter. D'où pouvait-il provenir ? Il aurait la réponse dans quelques heures. Mais comme il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, à 4 heures du matin, il avait pris le chemin du commissariat et s'était installé derrière son ordinateur. Quelques tasses de café et recherches sur Internet plus tard, il ne comprenait toujours pas les causes de ce meurtre, ni l'importance, certainement décisive, de ce petit bout de papier. Pour achever le tableau, une disparition inquiétante avait été signalée pendant la nuit et avait également mis le commissariat en ébullition. Une jeune fille, originaire de Saint-Blaise, n'était pas rentrée chez elle après le lycée. Rouillet avait été très touché par cette disparition. Étrangement, il ne s'agissait pas de la première depuis janvier. Dans ce genre de cas, les forces de l'ordre concluaient souvent à une fugue. Les adolescentes s'enfuyaient sur un coup de tête avec leur petite amie, s'étant fâchées avec leurs parents, et revenaient alors aussi vite qu'elles étaient parties. Des tas de questions tournoyaient dans le cerveau fatigué de Rouillet. Il avait hâte de se rendre à l'Institut de médecine légale du centre hospitalier d'Annecy pour en savoir un peu plus sur la mort du professeur d'histoire. Le papier que l'homme tenait entre les mains, d'où venait-il ? Et cette jeune fille, les gendarmes feraient-ils en sorte de la retrouver ? Il avait rencontré ses parents cette nuit. Il avait lu l'inquiétude et la peur dans leurs yeux. Il aurait voulu leur apporter son aide, mais ce n'était pas son rôle. Il y avait une brigade spéciale qui s'occupait des disparitions dans le commissariat. Cette dernière travaillait en étroite collaboration avec les postes de gendarmerie locaux. Il s'étira, bâilla sur son fauteuil et se dit que, de toute manière, eux, ils ne feraient rien jusqu'au lendemain. Soupir, il avait honte. En tant que vieux loup au sein de la police et avec son expérience, il savait comment certains travaillaient, malheureusement. Ils ne méritaient ni leur grade, ni leur uniforme, ni leur nom. Vifs défenseurs du service minimum, ils ne faisaient que profiter des avantages de leurs fonctions. Et pire encore, ils multipliaient les bavures. Heureusement, Rouillet n'avait laissé aucun de ses ripoux intégrer son équipe. Il n'en voulait pas. Mais qu'allait-il advenir du commissariat après son départ définitif qui devait avoir lieu la semaine suivante ? Un commissaire du sud de la France avait été nommé pour venir le remplacer. Rouillet s'était renseigné, il avait l'air d'être un bon policier, mais bon, les apparences étaient parfois trompeuses. Il se sentait lâche d'abandonner son équipe aux mains d'un inconnu. Il était inquiet et ressassait inlassablement des pensées idiotes. Aurore s'entendrait-elle avec lui ? Ferait-il du bon boulot ? Il se disait aussi que rien ne l'empêchait de venir voir au commissariat tous les jours pour contrôler. Il avait donné sa vie à son métier, et ce dernier le rongerait même pendant sa retraite, qu'il avait pourtant attendue avec impatience. Rouillet avait tellement peur de s'ennuyer qu'allait-il bien pouvoir faire une fois son insigne rendu? Il se sentait tellement seul. Sa vie, c'était son travail. C'était sa famille, sa raison de vivre. Mais il y avait encore une chose qui lui manquerait plus que tout. La doctoresse Reynaud et sa douce voix au téléphone.
Dans ce passage de votre roman, Olivia Guérig, on perçoit bien le vertige dont est saisi votre commissaire Rouillé à l'idée de prendre sa retraite dans quelques jours et donc de quitter le métier pour lequel il a donné 40 ans de sa vie. Mais j'en retiens surtout la dernière phrase. Il y avait encore une chose qui lui manquerait le plus, la doctoresse Reynaud et sa douce voix au téléphone. On a évoqué, hein, en sous-texte, la petite histoire qui pourrait se lier entre Rouillé et cette profileuse, mais il faudrait en dire plus sur, justement, le profil, éclaircir le profil de la profileuse. Qui est-elle, cette psychocriminologue venue de Belgique?
Alors, donc, elle, j'ai été inspirée par une profileuse qui existe vraiment, qui s'appelle Karine Utzebo. Donc, j'avais lu un livre pendant mes études, justement, de criminologie. Et bon, c'est un portrait complètement inventé, donc fictif. Donc il y a vraiment une profileuse qui existe en Belgique. La doctoresse Reynaud, elle travaille surtout comme experte dans les tribunaux. Elle va donner les profils psychologiques des criminels qu'elle rencontre, qu'elle doit expertiser, comme on dit, au niveau psychologique.
Savoir s'ils sont responsables de leurs actes ou non, pas, c'est ça qu'elle est censée déterminer.
C'est tout à fait ça.
Donc en général, elle se prononce sur des personnes qu'elle connaît, et non pas comme c'est le cas dans votre roman, à partir d'indices qui lui donneront l'occasion justement de dessiner le profil du criminel.
Dans la vraie vie, les profileurs n'existent pas comme ils sont représentés dans les séries américaines, ou en tout cas pas ici en Europe. Il s'agit surtout d'experts psychiatres ou psychologues qui vont expertiser des criminels avant leur jugement, par exemple, justement pour définir s'ils sont oui ou non responsables de leur acte. Là, dans ce cas-là, elle va aider le commissaire Rouillé dans les deux enquêtes, hein, dans Les Pendus du Thieu et dans...
C'est grâce à elle que l'intrigue peut être résolue, justement, chaque fois. Hein. Elle a quand même un flair extraordinaire. D'où vient ce terme profileur, profileuse?
Établir le profil d'un criminel, donc essayer de comprendre pourquoi, pas pourquoi, qui est le criminel, mais vraiment dans l'aspect psychologique, pourquoi est-ce qu'il a commis certains actes, donc essayer de définir l'âge du criminel, son activité, les raisons pour lesquelles il va passer à l'acte. Donc il y a énormément de choses dans un profil, en fait.
Il y a un terme qui m'amuse, mais qui m'intéresse beaucoup et qu'on trouve dans vos deux romans, c'est un criminel narcissosexuel mixte à tendance organisée ou inorganisée. Ça, c'est du jargon technique que vous arrivez à faire passer comme ça dans votre roman, et on y croit. C'est véritablement les termes employés.
Ça, c'est vraiment les termes employés. Donc,
en deux mots, on va profiter de vous et de votre bonne connaissance en psychocriminologie, quelle différence y a-t-il entre un criminel à tendance organisée ou à tendance inorganisée?
Alors le criminel à tendance organisée, donc c'est donc ce qu'on va appeler vraiment un psychopathe aussi. Donc souvent dans les autres romans noirs, on appelle un psychopathe. Il planifie tout. Donc il est très très organisé. Il va observer ses victimes. Il va rien laisser au hasard en fait, en commettant son crime. Donc il va prévoir ça plusieurs mois.
C'est un planificateur, un calculateur.
Voilà, exactement. Il va pas laisser d'indices. Il va passer la scène au peigne fin lui-même avant de partir.
Et il y reviendra sur la scène du crime une fois le crime effectué. Alors qu'un inorganisé,
il va agir sur des impulsions. Il va pas choisir sa victime, il va déchaîner de la violence sur sa victime. Donc vraiment sans calculer, puis les armes du crime, il va tout laisser sur place. Il va pas planifier aussi après.
Et plus impulsif, voilà. Compris. Donc cette distinction entre organisé et inorganisé, il y a une autre distinction qui est cruciale aussi lorsque des procès se tiennent avec de tels individus, c'est est-il un psychopathe ou un psychotique ? Et là, la différence est de taille.
Justement, donc l'organisé sera psychopathe.
Oui.
Et le désorganisé, la plupart du temps, psychotique, justement.
Donc l'un est plus ou moins responsable de ses actes, alors que l'autre ne l'est pas. Donc son sort après le procès va en dépendre, évidemment.
Tout à fait.
Alors je reviens, Olivia Guérig, à votre profileuse, parce que sous ses aspects austères et très professionnels, Justine Reynaud dissimule une personnalité complexe. Et à propos du rapport qu'elle entretient avec son activité professionnelle très pointue, voici un bref passage tiré de L'Ogre du Salève.
Elle s'empêchait d'éprouver des sentiments pour quiconque. Depuis le décès de son mari de nombreuses années auparavant, dans d'étranges circonstances. Peut-être était-ce cet événement dramatique qui l'avait poussée à façonner sa carrière de profileuse. Comprendre les méandres des cerveaux malades, ou percer les défenses des psychopathes les plus froids et les plus calculateurs, était son quotidien. Elle arrivait à obtenir les confidences des plus dangereux criminels. Parfois, elle avait du mal à se regarder dans la glace. Comment pouvait-elle si bien les comprendre? Ne se perdait-elle pas? N'était-elle pas folle elle-même? Mais ce qui lui manquait le plus, c'était sans doute le sommeil. Parfois, elle passait des nuits à veiller, pensant à tout ce qu'elle avait vu et entendu. La profileuse était obligée de prendre de la distance avec les criminels, de s'enfermer dans une bulle de protection. Cette dernière lui avait permis de se préserver. Elle n'était pas eux, même si elle les côtoyait. Elle était plus forte qu'eux. Installant toutes les barrières, aussi bien physiques que mentales, entre son esprit, son corps et les leurs.
Dans ce passage, Olivia Guérig, vous mettez clairement en avant un risque qu'encourt le psychocriminologue. À force d'entrer dans l'esprit troublé d'un tueur, on peut perdre pied, on peut perdre soi-même la raison, d'où le besoin de protection psychologique et certainement d'une grande discipline de vie. C'est là, c'est ça qu'exprime votre texte ici.
Tout à fait. Aussi de prendre vraiment de la distance entre ce qu'on voit et ce qu'on étudie et soi-même. Parce que bon, c'est vrai qu'après, quand on côtoie des personnages, des criminels qui ont commis des actes tels que ceux-ci, comment rester distante et professionnelle par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on a vu ou... C'est vraiment important aussi de se préserver.
Doctoresse Reynaud, finalement, c'est un peu vous. C'est vous qui allez chercher justement l'origine du mal. Pourquoi ce mal que tout être humain finalement en soi émerge-t-il un jour et pourquoi s'exprime-t-il? Et que ce soit dans Les Pendus du Thiou, votre premier texte, ou L'Ogre du Salève, ce roman, il y a toujours un événement traumatique lié à l'enfance qui expliquerait le surgissement de ce mal. Est-ce que c'est une vision aussi simple que ça? Enfin, je me demandais si c'était pas un peu simpliste justement. Est-ce qu'on peut expliquer tous les crimes narcissosexuels à tendance organisée ou inorganisée de cette manière, c'est-à-dire des traumatismes liés en général à l'enfance?
C'est souvent dans l'enfance que commence justement le début d'une perversion psychologique, en fait. C'est vrai qu'on explique beaucoup dans la psychocriminologie, on explique énormément de choses par la situation familiale, par les études, par ce qu'on a fait, par ce qu'on a vécu avec ses parents, le rapport à la mère, souvent.
C'est... Oui, donc c'est une lecture très freudienne de la réalité humaine.
Mais moi, je ne l'explique pas seulement comme ça. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent... d'autres événements traumatiques qui se passent par la suite, qui peuvent expliquer un passage à l'acte.
L'histoire policière que vous racontez, ça il faut aussi le mentionner, Olivier Guérig, dans L'Ogre du Salève, n'est pas linéaire, elle passe d'une temporalité à l'autre, c'est vraiment important, entre le présent de l'affaire confiée au commissaire Rouillet et le passé de la région du Salève sous l'occupation. Pourquoi ce choix qui était le vôtre de faire résonner les exactions du tueur dans l'histoire récente de la Deuxième Guerre mondiale?
Parce que pour moi c'est l'une des périodes les plus noires en fait de l'histoire contemporaine pour l'instant. On est en train de revivre un peu... On est en train de retourner dans un espèce d'obscurantisme et de la violence. Mais pour moi, justement, la Deuxième Guerre mondiale correspondait bien avec ce qu'on peut s'imaginer comme le pire des mâles. Donc les exactions commises par les nazis, pour moi, sont vraiment un exemple de ce que l'homme peut faire de pire.
Alors, on sait que les nazis ont effectué des expérimentations sur de pauvres victimes pour toutes sortes de causes, de mauvaises causes. Est-ce qu'il y a des cas, vous disiez tout à l'heure, cette histoire est basée sur des faits réels, est-ce qu'il y a des cas avérés de cannibalisme dans la région du Salève sous l'occupation?
Ça, je ne sais pas.
Ça, c'est votre imaginaire.
Ça, c'est vraiment mon imaginaire. J'aurais pu choisir... J'ai choisi le cannibalisme parce que je trouve que c'est un crime qui est particulièrement spécial et sanglant, dans le sens où on fait quelque chose à son semblable qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. On s'approprie.
Ah oui, ingurgiter l'autre, c'est se l'approprier et c'est surtout le dominer complètement puisqu'on le contient dans son corps. Mais il y a aussi un secret, la motivation aussi de ces psychopathes ou psychotiques que vous décrivez, ces cannibales, Olivia Guérig, s'ils font ça, c'est aussi pour gagner une jeunesse éternelle.
Tout à fait.
Ouais, parce ils sont que persuadés que s'ils sont beaux, forts, tels qu'on les imaginait dans l'esthétique nazie, c'est grâce au fait qu'ils ingurgitent de la chair fraîche et si possible de jeunes vierges.
Tout à fait.
Donc là, vous poussez le bouchon très loin.
Oui.
Ça aussi, ce sont des faits avérés, parce que vous décrivez aussi les différents cas de cannibalisme qu'on peut trouver. Il y a le cannibalisme épicurien, j'aime beaucoup ce terme. C'est une appellation scientifique.
Donc il y a eu des... Oui, tout à fait. Donc il y a eu plusieurs cas de cannibales, donc de tueurs en série cannibales dans le monde. Et donc on peut les définir dans différents types de cannibalisme. Alors il y a le cannibalisme rituel, donc pour accomplir certains actes, justement pour garder la jeunesse, pour... le cannibalisme épicurien, c'est dans le sens où on apprécie le goût de la viande humaine, en fait.
Mmh. Ah oui, mais donc, c'est le cas d'ailleurs de l'un de vos tueurs en série. Lui, il apprécie tout cela. Et avec un léger humour noir, vous le décrivez aller chez l'épicier du coin qui, lui, n'a rien compris à l'affaire, choisir ses épices parce que chaque fois, sa jeune vierge, il aimerait l'accommoder de manière différente.
À sa sauce, oui, tout à fait. Donc...
Oui, c'est le cas de le dire, à sa sauce. Mmh. Ça, c'est le genre de petits détails qu'en tant qu'auteur, vous permettez et dont vous délectez, si je puis dire.
Oui, parce que j'ai pas voulu non plus. Je pense que mes descriptions des crimes ne sont pas très violentes. Je vais pas faire quelque chose exprès pour être dans le gore ou dans le.
Non, il y a certains passages qui sont quand même assez éloquents et difficiles à supporter. Ouais. Vous avez le sens du détail aussi.
Mais je me disais que c'était intéressant justement de donner un aspect culinaire aussi à la chose.
Ah oui, alors là, c'est tout à fait réussi. Et puis, on a parlé donc de Nietzsche, il faudrait y revenir très brièvement parce que, en tête de chapitre, vous apposez régulièrement une exergue tirée de Au-delà du bien et du mal, et il y en a une qui fait tout à fait sens. Ce qu'on fait par amour l'est toujours par-delà le bien et le mal. Et il y a cette confusion permanente chez votre tueur en série entre l'amour et le mal. Finalement, ces victimes, il les aime d'un amour profond au point qu'il tient à les ingurgiter.
C'est
il y a
ça.
Une confusion mentale terrible.
Ben c'est justement, alors, il y a ça, il y a cet aspect-là, mais c'est aussi tout ce qu'on est prêt à faire par amour, en fait. Mm-hmm. Est-ce qu'on va au-dessus de certaines frontières? Ben là, dans le cas de l'ogre, oui. Le commissaire Rouillet, lui, par amour, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester dans le domaine du bien?
Oui, en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, entre les lignes, vous nous l'aviez appris en direct, Olivia Guérig, c'est que le commissaire Rouillet reviendra, même s'il a pris sa retraite, dans un futur roman que vous êtes en train d'écrire.
Tout à fait. Alors j'ai deux projets. Donc Le Mage Noir, qui est inspiré des mêmes personnages, plus ou moins. Donc ça, c'est le roman policier qui se déroulera entre Genève et Paris, entre autres. Et également Un Pasquemer, qui est plus un roman, une histoire de vie.
Merci Olivia Guérig de nous avoir emmenés dans les tréfonds de l'âme humaine, entre humanité et inhumanité. Nous allons donc nous quitter avec Barry White, c'est lui qui écoute votre commissaire rouillé à la dernière page de votre roman, et on ne dira pas pourquoi. Ce premier roman d'Olivia Guérig est intitulé « L'ogre du Salève ». C'est une parution récente des éditions Encre Fraîche. Olivia Guérig était mon invitée mardi dernier. Nous étions en direct entre les lignes. Cet entretien vous était proposé aujourd'hui en nouvelle diffusion dominicale. Entretien que vous pourrez retrouver, comme tous ceux qui précèdent d'ailleurs, sur la page internet de l'émission. Pour cela, vous tapez rts.ch/entre-les-lignes. Voilà, nous allons refermer ces interlignes avec Barry White. Demain à 11h, c'est David Collin qui vous accueillera entre les lignes avec Rainer Michael Mason, historien d'art. David évoquera une exposition à voir actuellement à la Fondation Michalski à Montrichet autour de l'œuvre graphique de Henri Michaud, exposition intitulée « Figure, écriture ». Et dans un avenir plus proche, après le Flash Info, vous retrouverez Thierry Sartoretti pour Zone Critique Art de la Seine. Espace 2, il est midi.